La grande édition, Clémence Gondon-Negrini, bonjour.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
Un témoignage poignant ce midi.
Celui de notre invitée de la rédaction, Angélique Cauchy, la fondatrice de l'association Rebond, qui lutte contre les violences sexuelles sur les jeunes sportifs. Elle en a elle-même été victime pendant des années, enfant, de la part de son entraîneur de tennis. On sait qu'un enfant sur sept pratiquant un sport sera victime de violences sexuelles avant sa majorité. Aux Jeux Olympiques à Paris, 50 000 agents de la fonction publique seront mobilisés. Quid de la Corse qui a besoin chaque été de renforts en sécurité et en santé pour faire face à l'afflux touristique, l'ARS et les hôpitaux s'organisent. L'armée israélienne a-t-elle répondu à l'attaque le week-end dernier de l'Iran ? Difficile pour l'instant de le dire, mais des explosions ont été entendues cette nuit dans le centre de l'Iran. Analyse dans ce journal. 50 ans d'histoire entre la Mobilines et la Corse, la compagnie italienne a mis les petits plats dans les grands hier à Bastia pour fêter cet anniversaire. Reportage à suivre. La Corse à l'épreuve des Jeux Olympiques. Chaque année à la période estivale, il y a déjà une attention particulière pour répondre à l'afflux touristique en termes d'effectifs médicaux et sécuritaires. Cet été s'ajoute une inconnue de taille à la compétition des JO entre le 26 juillet et le 11 août. Sur cette période, les médecins remplaçants intérimaires et internes qui renforcent traditionnellement le dispositif insulaire risquent d'être concentrés en Île-de-France. Un manque que l'ARS et les hôpitaux tentent d'anticiper, notamment par le biais du secteur libéral avec les MMG, les maisons médicales de garde. Marie-Hélène Le Seine, la directrice de l'Agence régionale de santé.
On est dans une perspective de réponse tout au long de l'année, mais avec une amplitude d'ouverture ou un renfort en termes d'effectifs pour l'été, dans la mesure où, bien sûr, on accueille également les touristes. On est à la fois dans conforter l'existant, parce qu'on a déjà une offre et parfois déjà ancienne, comme sur l'extrême sud, hein, où la MMG de Porto-Vec existe depuis plusieurs années. Et puis dans un certain nombre d'autres territoires, il n'y avait pas cette offre et nous pensons qu'elle serait utile à mettre en place. Donc il est fort probable, hein, qu'on aura plusieurs MMG ou centres de soins non programmés supplémentaires qui vont ouvrir entre le printemps et l'été. Enfin.
Ces structures seront destinées à couvrir la plaine orientale, l'extrême sud, mais aussi Bastia et Ajaccio, où Laurent Carlini, le responsable de la MMG de la Cité Impériale, compte intensifier les plannings, notamment grâce aux étudiants.
Du fait de la première année de médecine à Corti, qui a débuté il y a maintenant 20 ans, on a un retour des étudiants. Et 70% des étudiants qui ont fait la première année de médecine à Corti et qui effectuent de la médecine générale rentrent en Corse. Donc effectivement, ça aussi, ce retour des étudiants, c'est aussi le sens de notre travail au sein des URPS, des Unions Régionales de Médecins Libéraux, contribue à ce qu'on a des plannings qui sont de plus en plus denses. Donc on est cet été, pour vous donner un chiffre un peu plus précis, aux alentours d'une quinzaine de participants au sein de la maison médicale de garde de l'hôpital d'Ajaccio. Et on a en moyenne à 8-9 participants l'hiver.
Et cette population multipliée cet été imposera sûrement aussi une augmentation des effectifs sécuritaires, eux-mêmes déjà mobilisés en nombre sur les JO. En tout, à l'échelle nationale, 50 000 agents de la fonction publique doivent être mobilisés, dont 25 000 agents de police. Pour l'instant, la préfecture de Corse indique que le dispositif de force de l'ordre mis à disposition en Corse n'est pas encore connu.
RCFM, l'invité de la rédaction.
Un témoignage frappant ce matin avec notre invité de la rédaction, Angélique Cauchy, la cofondatrice de l'association Rebond, qui lutte contre les violences sexuelles sur les jeunes sportifs. Elle en a elle-même été victime de viol enfant par son coach. Angélique Cauchy n'avait que 12 ans, elle a attendu plus de 15 ans avant de porter plainte. Puis en 2017, elle a créé l'association pour aider les autres victimes de violences sexuelles. Témoignage au micro de Jean-Philippe Thibaudeau.
Angélique Cauchy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de l'association Rebond qui lutte contre les violences sexuelles sur les mineurs dans le monde du sport. C'est une association que vous avez créée en 2017 après avoir été vous-même abusée par votre coach de tennis et vous avez mis très longtemps à vous exprimer publiquement.
Alors j'ai cofondé cette association avec mes co-victimes. Ça a changé ma vie, oui, parce que ça voulait dire passer à un moment où on allait être de l'autre côté. On allait plus seulement être la victime, on allait être aussi l'aidant. Donc forcément, c'est un cap dans la reconstruction. Après, ça faisait ma malgré tout partie de cette reconstruction, parce que aujourd'hui encore, ce qui est le plus difficile à moi, pour moi à vivre, c'est cette culpabilité que je porte de ne pas avoir parlé, et en ne parlant pas, d'avoir fait en sorte que ça se reproduise avec les autres. Et donc quelque part, c'est aussi une thérapie pour moi de me dire qu'aujourd'hui je rattrape un petit peu ce que je n'ai pas fait pendant toutes ces années-là.
Justement, comment on libère cette parole?
Alors, j'ai déposé plainte en 2014, donc 15 ans après les faits, effectivement. J'avais 27 ans. J'ai pas parlé publiquement à ce moment-là parce que je voulais pas que ma prise de parole ait une incidence sur la procédure, puis sur les procès. Je voulais pas qu'on, entre guillemets, on me taxe de vouloir influencer la justice. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pris la parole publiquement toutes ces années-là. Et puis aussi parce que c'est des années où il faut soi-même être en capacité de voir les ravages que ça a produit sur sa vie, être capable de se relever. Et j'ai trouvé la force de le faire en 2021 parce qu'aussi il avait été condamné, que pour moi le chemin de la justice était derrière moi. Et depuis, c'est vrai que je vais beaucoup mieux depuis 2021 et depuis cette prise de parole publique, parce que en un sens, j'ai toujours été, je pense, faite pour prendre la parole. Et donc c'était plutôt contre nature d'avoir gardé le silence toutes ces années-là.
C'est toujours difficile de poser des mots lorsqu'on est en face sur ce qui vous est arrivé, mais vous avez été violée plus de 400 fois pendant ces deux années, et vous avez déclaré qu'il pouvait tout vous demander, vous l'auriez fait. C'est vraiment une emprise d'un homme, d'un coach sur une athlète ou un athlète, c'est comme ça que ça se passe au départ?
Alors au départ, il devient plus même qu'un entraîneur, c'est-à-dire qu'effectivement c'est l'entraîneur, et comme on a un projet de haut niveau, c'est quelqu'un de central dans sa vie. Quand on est enfant, on respecte l'autorité, et qui plus est, j'étais une enfant qui respectait énormément l'autorité, donc c'était un terrain favorable. Et ensuite, il s'est immiscé dans ma famille, il est devenu un ami, il est devenu quelqu'un d'indispensable parce qu'il m'emmenait dans les tournois, il m'emmenait dans les entraînements que mes parents, ils avaient des difficultés, parce que seul mon père avait le permis de conduire, et c'est comme ça qu'il s'est rendu indispensable. Et au fur et à mesure, il a pris le rôle de mon père. Il le disait, je suis comme son beau-père, et parce qu'il voyait que j'avais aussi des carences de ce côté-là, notamment affectif du côté de mon père, bah, il s'est engouffré, et c'est comme ça qu'il a eu cette emprise totale qu'il avait sur moi, mais qu'il avait aussi sur ma famille, qu'il avait aussi sur le club. Et en fait, c'est tout cet écosystème qui était sous son emprise, et c'est pour ça que ça a duré aussi longtemps, et que c'était finalement aussi facile pour lui.
Cette association que vous avez créée en 2017, l'association Rebond, c'est justement pour venir en aide à tous ces jeunes athlètes qui peuvent rencontrer ce genre de drame. Aujourd'hui, en France, quelle est la situation? Est-ce qu'on a beaucoup de jeunes sportifs qui ont vécu ce que vous avez vécu?
Bah, malheureusement, oui. C'est un enfant sur sept qui fait du sport qui sera victime de violences sexuelles avant sa majorité. C'est un chiffre terrible. On a du mal à se représenter un enfant sur sept en se disant que dans une classe, ça représente en statistique 4 élèves par classe. Mais c'est la réalité. On est touché, mais on n'est pas les seuls. Et ça avance. Il y a des choses qui sont mises en place par le ministère et par les fédérations.
Mais justement, les fédérations et les ligues, dans ces moments-là, où elles sont, qu'est-ce qu'elles font?
Alors aujourd'hui, elles sont censées faire un signalement, que ça remonte au niveau de la Fédé, puis qu'après ça remonte sur Signal Sport. Elles sont censées être là aussi pour les victimes, avoir aussi des sanctions disciplinaires envers les auteurs, qui sont totalement décorrélées des sanctions pénales, et c'est deux systèmes bien différents, il faut bien l'avoir en tête. Aujourd'hui, la Fédération Française de Tennis, par exemple, a mis en place une assurance dans sa licence qui prend en charge les frais d'avocat et les frais psychologiques des victimes qui déposent plainte pour les viols, enfin les violences sexuelles au sens large. Donc ça, déjà, c'est un pas qu'a fait la Fédération Française de Tennis, à travers aussi le partenariat que nous, les associations, et notamment Rebond, on a avec eux, et cette prévention qu'on fait au quotidien sur tout le territoire. Et c'est aussi pour ça que je suis là. Et puis il y a aussi toutes les entreprises comme Engie qui prennent ça à bras le corps et qui veulent essayer de changer la société. Et c'est à travers ce partenariat avec Engie qu'aujourd'hui je suis là en Corse à Calvi pour faire une sensibilisation lors du tournoi.
Vous avez témoigné devant une commission d'enquête de l'Assemblée nationale il y a quelques temps, justement sur les dysfonctionnements au niveau de la gouvernance dans le sport. Est-ce qu'il y en a réellement? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu un silence complice des instances par rapport à ce qui s'est passé il y a plusieurs années en arrière, ou par rapport à ce qui se passe peut-être encore maintenant?
Il y a eu ce qu'on appelle effectivement maintenant très souvent cette omerta qui était réelle, hein, il y a une dizaine d'années. Maintenant, il y avait une partie des gens qui voyaient et qui ne voulaient pas s'en mêler, une autre partie qui ne voulait pas voir, une partie qui ne voyait pas, parce que finalement ils n'avaient pas les outils pour pouvoir aussi percevoir ces signes qu'on pouvait percevoir chez les victimes. victimes, mais aussi chez les auteurs, rien n'était entre guillemets mis en place pour favoriser l'intégrité physique et mentale des jeunes. Aujourd'hui, de plus en plus de principes de précaution sont mis en place, notamment sur les déplacements avec les nuits d'hôtel ou sur les déplacements en voiture ou sur la façon dont on entraîne et la relation qu'on doit avoir avec un jeune. Mais c'est vrai que pendant des tas d'années, on s'est pas trop posé la question et la seule question peut-être qui comptait, c'était à savoir est-ce qu'on ramène des médailles, et la question c'était à quel prix. Mais après, je voudrais aussi dire aux jeunes qu'on les croit et qu'on les protège et que le jour où ils doivent libérer la parole, les adultes seront là, ce qui n'était pas le cas avant. Et voilà, c'est surtout un message à la fois d'espoir, mais à la fois d'éducation et de prévention que j'essaye d'avoir avec les jeunes.
Angélique Cauchy, merci beaucoup.
Merci à vous.
Sur bleu-rcfm.fr, vous retrouvez le témoignage d'Angélique Cauchy avec un lien vers le site internet de son association. On vous rappelle le numéro Allo Enfance en danger, le 119. Il est gratuit et fonctionne 24 heures sur 24. Des explosions entendues cette nuit en Iran, dans le centre du pays. D'après la presse américaine, il pourrait s'agir d'une réplique israélienne après l'attaque iranienne du week-end dernier. On manque encore d'informations sur l'impact réel de ces explosions, Étienne Monin.
Symbole d'une volonté de minimiser cet événement, la télé iranienne filme la vie quotidienne autour d'un important rond-point à Ispahan. Il n'y a pas eu de dégâts ou d'explosions à grande échelle d'après l'agence iranienne IRNA. La tonalité est donc pour l'instant mesurée côté iranien. Ce que l'on sait, c'est que la défense antiaérienne est entrée en action dans la nuit. Il y a eu plusieurs explosions près d'une base militaire. Des drones auraient été abattus. Cette attaque ne viendrait pas de l'étranger d'après l'agence Tasnim. Pour autant, la signature est israélienne d'après la presse américaine. Washington aurait été prévenu hier de cette opération. Les États-Unis n'auraient ni approuvé ni joué un rôle. Si elle est confirmée, elle permet aux Israéliens d'envoyer un message avant tout aux Iraniens pour leur dire qu'ils sont vulnérables sur leur sol à proximité des sites nucléaires.
Mais reste certain que cette activation de la défense antiaérienne de l'Iran présage d'un scénario pessimiste, d'une escalade, prévient l'universitaire Bertrand Badi, spécialiste des relations internationales.
Est-ce qu'il s'agit d'une attaque forte, minimisée par les autorités iraniennes, ou est-ce qu'il s'agit d'une attaque graduée, c'est-à-dire un message supplémentaire envoyé par l'État d'Israël en disant, voyez, je suis capable de frapper à tout moment les sites nucléaires iraniens. Vous savez, dans tout ce qui se passe depuis quelques mois au Moyen-Orient, souvent le message est plus important que l'action elle-même. La signification l'emporte sur la stratégie.
Et la communauté internationale exhorte à la désescalade. Le cardinal Bustillo réagit à la mise en examen hier de Pierre-Jean Franceschi, dans un communiqué de presse, il se dit profondément affecté par ce qui touche aujourd'hui l'un de ses membres et à suivre avec attention le cours de la procédure. Hier, le diacre de Pentadikazin a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, soupçonné d'avoir tenu une maison de retraite illégale. Dans le contrôle judiciaire figure notamment l'obligation pour lui de s'acquitter d'un cautionnement de 50 000 euros. Son avocat n'a pas donné suite à nos sollicitations. En déplacement en Guadeloupe, Gérald Darmanin vivement empoigné par un homme. Le ministre de l'Intérieur venait d'enregistrer une interview dans les locaux de la chaîne Guadeloupe Première. À la sortie, un jeune d'une vingtaine d'années s'est approché de lui avant de l'agresser physiquement, indique la presse locale. Il a été placé en garde à vue. Plus de prévention pour rendre nos territoires plus résilients face au changement climatique. C'est ce que prônent les chercheurs de l'Université de Corse et l'Agence de l'urbanisme qui ont assuré une conférence débat sur la question. L'objectif est d'identifier les risques tempêtes, inondations ou encore incendies et d'y répondre au mieux en planifiant des stratégies à court et à long terme. Si l'on prend l'exemple du risque inondation, il existe déjà la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. C'est une compétence intercommunale, mais elle n'est pas toujours facile à mettre en œuvre pour les collectivités qui manquent de moyens. Et cela pose question pour Antoine Orsini, le président de la communauté de communes Centre-Corse et hydrobiologiste.
Quand on regarde le niveau des revenus, ben on va pas surajouter une taxe GEMAPI. Alors nous, on a fait des travaux avec des aides de l'État, des aides de la collectivité de Corse, mais on n'a pas encore levé l'impôt. Je dis encore parce qu'un jour, il faudra peut-être. Mais vous avez compris que ça réglera pas le problème. Le problème reste entier sur les moyens alloués. Parce que dès qu'on commence à vouloir nettoyer un cours d'eau, je le dis toujours, quand on regarde la longueur de la rivière, j'ai 20 km à faire. Non, tu en as 40, parce que rive droite et rive gauche.
Or pourtant, comme en matière de santé, j'ai envie de dire, la prévention est sans doute moins coûteuse à la fin que le traitement.
Alors, c'est évident. Il vaut mieux peut-être couper quelques bois tous les ans que de refaire un pont. Ça coûte tout de suite 100 000 euros. Mais la prévention demande quand même beaucoup d'argent parce qu'on a des linéaires de cours d'eau importants. Je vais parler du centre Corse. Dès qu'on commence à voir le Tavignan, la Restonga, le Vecchio et les affluents, bah, ça doit faire 300 km de cours d'eau.
Et au-delà de la question des moyens, pour Morgane Millet, coordinatrice mutation et innovation territoriale à la Fondation de l'Université, il faut tout d'abord mutualiser ces moyens en croisant notamment les expériences et les disciplines.
Nous, à l'HR, en fait, on a une approche interdisciplinaire. Interdisciplinaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaye de réunir différentes disciplines scientifiques pour aborder un même sujet, pour aborder la gestion de l'eau, pour aborder la question agricole, pour aborder la question de l'habitat. Ça veut dire solliciter des biologistes, des hydrogéologues, mais aussi demander aux sciences humaines et sociales de prendre position vis-à-vis de ces sujets-là et d'accompagner, en fait, les problématiques. Alors, il y a non seulement l'idée d'acceptation sociale, mais aussi l'idée, et c'est là le deuxième élément d'interdisciplinarité. Interdisciplinarité, ça veut dire que l'université sort de sa sphère purement académique et accepte que des habitants, des citoyens, soient aussi des gens qui ont des idées, qui savent où aller. Et donc, c'est non seulement partir sur de l'acceptation sociale, mais aussi de la co-construction entre académiques et citoyens.
Et hier, le ministère de la Transition écologique a justement lancé un service expérimental destiné aux collectivités pour faciliter les adaptations au réchauffement climatique. Ça s'appelle la mission adaptation pour que chaque territoire construise des stratégies d'ici 2030 en étant aidé par des experts. Pas de risque de pollution à l'étang de Bigoul, il y a le risque élevé. La menace a pourtant pesé hier quand 3000 litres d'hydrocarbures ont été déversés dans la zone industrielle de Tragonne et de l'huile de vidange jetée dans les égouts jusqu'à ce qu'ils débordent et qu'elle envahisse la route. 300 litres se sont déversés dans un ruisseau qui in fine pouvait atteindre l'étang. Mais l'opération de pompage et l'installation de barrages flottants ont rapidement été menées. Une véritable course contre la montre que nous retrace Sabrina Etourneau, chef de service de la réserve de l'étang de Bigoul.
Nous avons, au sein de la collectivité, sollicité EDF, qui dispose de barrages anti-pollution, que nous avons donc déployé les agents de la réserve naturelle et EDF en aval, donc sur une partie qui, elle, est un petit peu en eau, de manière à éviter que, en cas de force d'intempérie, il y ait des résidus qui arrivent jusqu'à l'étang et resteront en place pendant un petit moment. Alors si on avait eu un déversement direct, ça aurait été vraiment très problématique, mais globalement le risque était très important. Il s'avère que lorsque nous ne constatons pas d'impact sur l'étang de Bigoul, il n'y a pas lieu de porter plainte.
Et une enquête a tout de même été ouverte par le parquet de Bastia. Elle est confiée à la police de l'environnement. À Ajaccio, une procédure d'alarme sociale lancée par la CGT à la Mouvitar. Depuis quelques mois, le réseau de bus ajaccien est menacé de cessation de paiement, ce qui peut conduire in fine à l'arrêt du service. Le syndicat a tenu une conférence de presse et rappelé que 130 emplois sont menacés. La secrétaire générale de la CGT Mouvitar, Marie-Blanche Nigolaï, dénonce des manquements de la part de la direction.
Nous sommes là en conférence de presse pour alerter la population sur le risque de cessation de paiement si à rupture de trésorerie. Aujourd'hui, ils vont se retrouver sans bus en centre-ville. Et on voudrait aussi que la CAPA prenne ses responsabilités et admette enfin leur manquement à la gestion de l'ASPL. À la création de l'ASPL, donc en 2016, l'ancienne direction pointait du doigt qu'il manquait donc 1 million d'euros par an au budget, ce qui a valu donc la recapitalisation de 2019. En réalité, ils ont juste couvert le trou que ça a créé sans réajuster donc le COSP. Ça a continué de se creuser et notamment donc avec les créations de lignes non rémunérées par la CAPA et les investissements, je dirais moteurs, boîtes de vitesse, toute infrastructure, tout ça, qui devraient incomber à la CAPA et qui sont supportés aujourd'hui par la SPL, donc pour un montant total d'1,5 million, ce qui couvrirait le déficit structurel.
Et pour l'heure, la direction de la SPL n'a pas souhaité réagir à ces propos. 50 ans d'histoire entre la Mobilines et la Corse. La compagnie italienne a mis les petits plats dans les grands hier, dans le port de Bastia, à bord du Moby Orly. Retour sur cette histoire qui a démarré en 1974 et sur les perspectives à venir avec vous, Caroline Saglione.
C'est une longue histoire qui a démarré à l'époque avec la Navarma qui desservait dans un premier temps avec ses navires à la baleine bleue, Bastia depuis Piombino ou Livourne, La Spezia ou encore Gênes. Devenue ensuite la Mobilines au début des années 90, la compagnie a modernisé sa flotte avec des navires plus grands. Aujourd'hui, la Mobilines a donc décidé d'allonger la saison et envisage même de donner une nouvelle impulsion à sa desserte. Fabien Paoli est le représentant emblématique de la Mobi en Corse depuis ses débuts.
Je pense que dans le futur, ce qu'on fait aujourd'hui, ce sera amélioré. On pense, on se construit comme un des noescales et une après l'astre. Tout doucement, on étend. Et je pense que dans les prochaines années, on va faire toute la Corse et toute l'année.
La Mobi qui assure également la liaison entre Bonifacio et la Sardaigne, et ce toute l'année, mais qui fait également du fret durant la saison estivale. Fabien Paoli.
Mais nous sommes à Bonifacio toute l'année, 4 fois par jour. On fait déjà du fret sur l'Italie, on fait un peu de fret sur les Vounes. Aujourd'hui, tout va bien. On a commencé le 28 mars, on va jusqu'au 3 novembre. On s'est remis sur pied comme on était il y a 10 ans.
En tout état de cause, la mise en service sur la desserte de Bastia du Moby Orly constitue une étape nouvelle dans la stratégie de développement de la Mobilines et dans sa volonté également d'apporter sa contribution à l'économie.
RCFM, Marée Ladine.
On connaît tous les fameuses griffes de sorcières qui font en ce moment de jolies fleurs. Seulement voilà, elles sont trop invasives. Alors demain, une opération d'arrachage est organisée par le Conservatoire du Littoral. Vous pouvez d'ailleurs aller donner un coup de main. Sophie Raspail, chargée de mission du Conservatoire, est dans Marée Ladine avec Jérôme Souzigne.
Et une opération d'arrachage de griffes de sorcières. Oui, c'est pas commun. C'est engagé par le Conservatoire du Littoral avec les gardes du littoral de la Corse de la CTC, avec une association Chénarc. Bonjour Sophie Raspail.
Bonjour.
Le Conservatoire du Littoral donc lance cette opération. Ça va se passer à Tihouch. Pourquoi il faut arracher? Pourtant, elles sont belles, ces griffes de sorcières.
La griffe de sorcière, en fait, c'est une espèce qui vient d'Afrique du Sud. Elle est bien pratique quand elle tient les talus. Le problème, c'est qu'elle envahit tout. Et en particulier, elle étouffe la végétation endémique. Et je pense notamment aux immortels qui n'ont aucune chance de survivre par rapport à cette plante qui pousse de 1 mètre par an.
Donc il y a une opération, vous appelez un peu à donner un coup de main samedi à Tihouch, à Capiol, de 9h à 11h. Et qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'elles sont arrachées? Il faut les brûler, il faut les laisser sécher, il faut les mettre quelque part? Comment ça se passe?
Effectivement, elles s'arrachent facilement, elles sont très superficielles. Par contre, ça repousse même avec un petit bout de plante. Donc la technique qui est adoptée, ça brûle très mal parce que c'est gorgé d'eau. La technique, c'est de les garder, de les déposer sur une zone imperméabilisée comme du bitume, du béton, un rocher, quelque chose sur lequel elles n'ont aucune chance de pousser, et de venir les retourner régulièrement pour qu'elles sèchent. Et ensuite, effectivement, elles peuvent être éventuellement brûlées, compostées. Ça, c'est le travail de suivi sur le long terme des gardes. L'opération de samedi, c'est vraiment une action coup de poing pour faire une intervention massive. Ce qu'on invite à faire, et c'est l'objet de cette opération, c'est non seulement de le faire une fois, mais en même temps de sensibiliser les personnes, c'est-à-dire tous les participants, les citoyens, que régulièrement, quand ils sont dans la nature, comme on peut avoir le réflexe de ramasser un déchet qu'on voit, bah, pensez à arracher une petite griffe de sorcière, ça coûte pas grand-chose, mais si tout le monde s'y met, potentiellement, on pourrait avoir sa peau dans les zones où elle est problématique.
Voilà, la bataille est donc lancée. En tous les cas, samedi, c'est-à-dire demain de 9h à 11h, parking Capiolo à Tihouch. Merci beaucoup, Sophie Raspail.
Merci, à demain.